Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, une émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, confortablement et très simplement installé dans votre canapé. Hervé va vous lire un certain nombre d'extraits choisis par lui pour vous présenter le livre. Tout d'abord, bonjour Hervé.
Bonjour.
Tout va bien Hervé ?
Oh oui, comme d'habitude.
Est-ce que tu peux nous dire le titre du roman que tu as choisi de nous lire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai choisi un roman de Laetitia Colombani, La Tresse. Et si tu me permets de continuer, alors je peux vous dire un petit mot sur l'auteur ?
L'autrice ?
L'autrice, oui, je ne sais pas comment dire au féminin.
L'autrice. Ou l'auteur avec un E, mais on a du mal à faire sentir le E.
C'est ça. Donc je n'avais jamais entendu parler il y a encore quelques mois. Ceci dit, c'est un peu normal, c'est son premier roman. Elle est née, j'ai regardé dans Wikipédia tout simplement, elle est née en 76, ça lui fait donc 42 ans aujourd'hui.
Ah là là.
Alors pour la plupart des auditeurs de cette émission, ça fait d'elle une petite jeunette, mais pour moi-même, qui en est 85, eh bien...
Et demi.
C'est une vieille, à moins que ça ne soit l'inverse, mais bon. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle travaille dans le cinéma, puisqu'elle réalise des courts-métrages et même deux longs-métrages. Elle est également comédienne, a tourné des films pour la télévision et le cinéma. La Tresse... Donc, c'est l'histoire de trois femmes, trois destins pourtant radicalement différents. Une indienne, Smita, intouchable parce que très pauvre, et je commencerai par elle tout à l'heure. Une sicilienne, Giulia, chef d'une petite entreprise familiale. Et une canadienne, Sarah, avocate brillante au sein d'un cabinet prestigieux au Canada. Alors, le rapport entre ces trois femmes ? Eh bien ça, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Ça sera à vous de lire le livre plus tard et ne comptez pas sur moi aujourd'hui. Vous êtes prêts ?
Eh bien,
alors
vas-y.
Alors, on y va. Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va rentrer à l'école de son village de Badlapur, en Inde. À l'école, Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, ou Badlapur, je ne sais comment le dire, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une dalite intouchable, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu, hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres. Un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages, de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejouant à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les jattes. Elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits, celui qui leur est réservé. Pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures, pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarayan, puis elle prend son panier de joncs tressés. Ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur rien qu'à le regarder. Ce panier à l'odeur tenace, âcre et indélébile qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau honteux. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition, quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure. Il faut payer, expier. Après, toute cette vie n'a plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi. C'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger, en anglais. Le terme signifie « extracteur ». Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, Il n'y a pas de mots pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres à mains nues toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. « Regarde, après tu feras. » Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. « Tu t'habitueras, » avait dit sa mère. Elle avait menti. « On ne s'habitue pas. » Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. « Il faut respirer, » a dit le docteur du village. « Voyez comme vous toussez. Il faut manger. L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. » Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum, une poignée de riz délayé dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À bas de la pure, comme ailleurs, on défèque à ciel ouvert. Partout, le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent. Ce que réclame le peuple avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail, ce sont des toilettes. Le droit à déféquer dignement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. Les plus chanceux ont aménagé un recoin dans leur cour ou au fond de leur maison, un simple trou dans le sol qu'on appelle pudiquement « toilette sèche », des latrines que les femmes dalites viennent vider chaque jour à main nue, des femmes comme Smita. Sa tournée commence vers 7 heures. Smita prend son panier et sa balayette en jonc. Elle sait qu'elle doit vider 20 maisons chaque jour, pas de temps à perdre. Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les Dalites doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cet intouchable lapidé pour le seul fait d'avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements, qu'on lui jette à même le sol. Pas touchée, pas regardée. Parfois, elle ne reçoit rien du tout. Une famille de Jats ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter. Elle l'a dit un soir à Nagarayan. Elle n'y retournera pas. Ils n'ont qu'à nettoyer leur mère d'eux-mêmes. Mais Nagarayan a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les Jats viendront incendier leur cahute. Elle sait de quoi ils sont capables. « On te coupera les deux jambes », avait-il dit à l'un des leurs. « On a retrouvé l'homme démembré et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. » Oui, Smita sait de quoi les Jats sont capables. Alors elle y retourne le lendemain. Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision qui s'est imposée à elle comme une évidence. Sa fille ira à l'école. Elle a eu du mal à convaincre Nagarayan. « À quoi bon » disait-il. « Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne lui donnera du travail. On est videur de toilettes et on le reste jusqu'à sa mort. C'est un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir. Un karma. » Smita n'a pas cédé. Elle en a reparlé le lendemain, le jour d'après et les suivants. Elle refuse d'emmener Lalita en tournée avec elle. Elle ne lui montrera pas les gestes des videurs de toilettes. Elle ne verra pas sa fille vomir dans le fossé comme sa mère avant elle. Non, Smita s'y refuse. Lalita doit aller à l'école. Devant sa détermination, Nagarayan a fini par céder. Il connaît sa femme. Sa volonté est puissante. Cette petite Dalit à la peau brune qu'il a épousée il y a 10 ans est plus forte que lui, il le sait. Alors, il a fini par céder. Soit, il ira à l'école du village et il parlera au brahman. Smita a souri secrètement de sa victoire. Elle aurait tant voulu que sa mère se batte pour elle, tant aimé passer la porte de l'école, s'asseoir parmi les autres enfants, apprendre à lire et à compter. Mais cela n'avait pas été possible. Le père de Smita n'était pas un homme bon comme Nagarayan. Il était irascible et violent. Il battait son épouse, comme tous le font ici. Il le répétait souvent, une femme n'est pas l'égale de son mari, elle lui appartient, elle est sa propriété, son esclave, elle doit se plier à sa volonté. Assurément, son père aurait préféré sauver sa vache plutôt que sa femme. Smita, elle, a de la chance. Nagarayan ne l'a jamais battue, jamais insultée. Lorsque Lalita est née, il a même été d'accord pour la garder. Pas loin d'ici, on tue les filles à la naissance. Dans les villages du Rajasthan, on les enterre vivantes, dans une boîte sous le sable, juste après leur naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir. Mais pas ici. Smita contemple Lalita, accroupie sur le sol en terre battue de la cahute, en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a les traits fins, les cheveux longs jusqu'à la taille, que Smita démêle et trace tous les matins. « Ma fille saura lire et écrire », se dit-elle, et cette pensée la réjouit. Oui, aujourd'hui est un jour dont elle se souviendra toute sa vie. Giulia, Palerme, Sicile. Giulia! Giulia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. Giulia! Giulia est tentée d'enfouir sa tête sous l'oreiller. Elle n'a pas assez dormi. Elle a encore passé la nuit à lire. Elle sait pourtant qu'elle doit se lever. Lorsque sa mère l'appelle, il faut obéir. C'est une mère sicilienne. Giulia ! La jeune femme quitte son lit à regret. Elle se lève et s'habille à la hâte, avant de descendre à la cuisine où s'impatiente la mamma. Sa sœur Adela est déjà levée, occupée à vernir ses ongles de pied sur la table du petit déjeuner. L'odeur du solvant fait grimacer Giulia. Sa mère lui sert une tasse de café. « Ton père est parti, c'est toi qui ouvres ce matin. » Giulia saisit les clés de l'atelier et quitte rapidement la maison. « Tu n'as rien mangé, emporte quelque chose. » Ignorant les mots de sa mère, elle enfourche son vélo et s'éloigne à grande pédalée. L'air frais du matin l'éveille un peu. Le vent dans les avenues lui fouette le visage et les yeux. Aux abords du marché, les odeurs d'agrumes, d'olives viennent lui piquer les yeux. Giulia longe l'étal du poissonnier, exhibant sardines et anguilles fraîchement pêchées. Elle accélère, monte sur les trottoirs, quitte la piazza Balloro, où les vendeurs ambulants apostrophent déjà les clients. Elle parvient dans une impasse, à l'écart de la Via Roma. C'est là qu'est installé l'atelier de son père. C'est un ancien cinéma, dont il a racheté les murs il y a 20 ans, l'âge de Giulia. Ses locaux d'alors étaient exigus. Un déménagement s'imposait. Sur la façade, on peut encore distinguer l'endroit où étaient placardées les affiches des films. Il est loin le temps où les Palerminati se pressaient pour voir les comédies d'Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni. Aujourd'hui, la plupart des salles ont fermé, comme ce petit cinéma de quartier transformé en atelier. Il a fallu aménager la cabine de projection en bureau, percer des fenêtres dans la grande salle afin que les ouvrières aient assez de lumière pour travailler. Le papa a effectué lui-même tous les travaux. L'endroit lui ressemble, songe Giulia. Il est brouillon et chaleureux, comme lui. Malgré ses accès de colère légendaires, Pietro Lanfredi est apprécié et respecté de ses employés. C'est un père aimant, bien qu'exigeant et autoritaire, qui a élevé ses filles dans le respect de la discipline et leur a transmis le goût du travail bien fait. Giulia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier arrivé. Il tient à accueillir lui-même ses ouvrières. « C'est ça, être le padrone !» se plaît-il à répéter. Il a toujours un mot pour l'une, une attention pour l'autre, un geste pour chacune. Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Giulia est la maîtresse de maison. À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt, l'endroit bruissera de 1000 conversations, de chansons, d'éclats de voix. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence et l'écho des pas de Giulia. Elle marche jusqu'au vestiaire réservé aux ouvrières et dépose ses affaires dans le casier à son prénom. Elle attrape sa blouse, se glisse comme chaque jour dans cette seconde peau. Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique les épingles avec agilité. Puis elle recouvre sa tête d'un fichu, une précaution indispensable ici. Il ne faut pas mêler ses cheveux à ceux traités à l'atelier. Ainsi vêtue et coiffée, elle n'est plus la fille du patron. Elle est une ouvrière comme une autre, une employée de la maison Lanfredi. Elle y tient. Elle a toujours refusé d'être une privilégiée. La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement et une joyeuse nuée emplit l'espace. En un instant, l'atelier s'anime, devient cet endroit bruyant que Giulia aime tant. Dans un brouhaha indistinct où les conversations s'entremêlent, les ouvrières se hâtent jusqu'au vestiaire où elles enfilent blouses et tabliers avant d'aller rejoindre leur place en bavardant. Giulia se joint à elle. Agnès a les traits tirés, son dernier fait ses dents, elle n'a pas dormi de la nuit. Federica retient ses larmes, son fiancé l'a quittée. « Encore !» s'exclame Alda. « Il reviendra demain !» la rassure Paola. Ici, les femmes partagent plus qu'un métier. Tandis que leurs mains s'activent sur les cheveux à traiter, elles parlent des hommes, de la vie, de l'amour, à longueur de journée. Ici, toutes savent que le mari de Gina boit, que le fils d'Alda fraye avec la Piovria, qu'Alezia a une brève liaison avec l'ex-mari de Rina, qui ne lui a jamais pardonné, et ainsi de suite. Giulia aime la compagnie de ses femmes, dont certaines la connaissent depuis qu'elle est enfant. Elle est presque née ici. Sa mère se plaît à raconter comment les contractions l'ont surprise alors qu'elle était occupée à trier des mèches dans la salle principale. Elle n'y travaille plus aujourd'hui en raison de sa mauvaise vue, a dû céder sa place à une employée aux yeux plus affûtés. Julia a grandi là, entre les cheveux à démêler, les mèches à laver, les commandes à expédier. Elle se souvient des vacances et des mercredis passés parmi les ouvrières à les regarder travailler. Elle aimait observer leurs mains en train de s'activer, telle une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les cheveux sur les cardes, ces grands peignes carrés pour les démêler puis les laver dans la baignoire fixée sur les tréteaux. Un ingénieux bricolage de son père qui n'aimait pas voir ses employés s'abîmer le dos. Julia s'amusait de la façon dont on suspendait les mèches aux fenêtres pour les faire sécher. On aurait dit le butin d'une tribu d'Indiens, une série de scalps étrangement exhibés. Elle a parfois l'impression qu'ici le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors, mais à l'intérieur de ses murs, elle se sent protégée. C'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses. Voilà près d'un siècle que sa famille vit de la cascatura, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou des perruques. Fondée en 1926 par l'arrière-grand-père de Julia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lave et traite des mèches envoyées ensuite en Italie et dans toute l'Europe. Le jour de ses 16 ans, Julia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève douée, selon ses professeurs, surtout celui d'italien qui l'incitait à continuer, elle aurait pu faire des études, entrer à l'université, mais il était pour elle impensable de changer de voie. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez les Lanfredi, qui se transmet de génération en génération. Étrangement, les sœurs de Julia n'ont pas manifesté l'intérêt pour le métier, et elle est la seule des filles Lanfredi à s'y consacrer. Francesca s'est mariée jeune et ne travaille pas, elle a 4 enfants aujourd'hui. Adela, la cadette, est encore au lycée et se destine au métier de la mode ou au mannequinat, tout plutôt que la voie de ses parents. Pour les commandes spécialisées, les couleurs difficiles à trouver, le papa a un secret, une formule héritée de son père et de son grand-père avant lui, à base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l'a transmise à Julia. Il l'emmène souvent sur le toit, dans son « laboratorio », comme il l'appelle. De là-haut, on peut voir la mer, et de l'autre côté, le Monte Pellegrino. Vêtu d'une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, Pietro fait bouillir de grands seaux pour pratiquer les retouches. Il sait comment décolorer les cheveux et les reteindre ensuite, sans que la couleur passe au lavage. Julia le regarde faire des heures durant, attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la mamma ses pasta. Il les remue à l'aide d'une cuillère en bois, les laisse reposer avant d'y revenir inlassablement. Il y a de la patience, de la rigueur, de l'amour aussi dans ce soin qu'il prend d'eux. Il se plaît à dire qu'un jour, ses cheveux seront portés et méritent le plus grand des respects. Julia se prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques sont destinées. Les hommes ici ne sont pas enclins à porter des postiches. Ils sont trop fiers, trop attachés à une certaine idée de leur virilité. Lorsqu'elle revient à l'atelier cet après-midi, un silence inhabituel règne dans la salle principale. À son entrée, tous les regards se tournent vers Julia. « Cara mia !» lui dit la nonna, d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. « Ta mère vient d'appeler. Il est arrivé quelque chose au papa. »
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle.
Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis chabrol, un petit goût de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. L'odeur de cette terre, plus sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une convidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut. Mais prenez soin jabot, la relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, d'où on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine,
elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent.
Sarah, Montréal, Canada. L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. À la seconde où elle ouvre les yeux, son cerveau s'allume comme le processeur d'un ordinateur. Chaque matin, elle se réveille à 5 heures. Pas le temps de dormir plus, chaque seconde est comptée. Sa journée est chronométrée, millimétrée, comme ces feuilles de papier qu'elle achète à la rentrée pour les cours de maths des enfants. Il est loin le temps de l'insouciance, celui d'avant le cabinet, la maternité, les responsabilités. Il suffisait alors d'un coup de fil pour changer le cours d'une journée. Et si ce soir on faisait? Et si on partait? Et si on allait? Aujourd'hui, tout est planifié, organisé, anticipé. Plus d'improvisation. Le rôle est appris, joué, répété chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Mère de famille, cadre supérieur, working girl, it girl, wonder woman, autant d'étiquettes que les magazines féminins collent sur le dos des femmes qui lui ressemblent, comme autant de sacs pesant sur leurs épaules. Sarah se lève, se douche, s'habille. Ses gestes sont précis, efficaces, orchestrés comme une symphonie militaire. Elle descend à la cuisine, dresse la table du petit-déjeuner, toujours dans le même ordre, lait, bol, jus d'orange, chocolat, pancakes pour Anna et Simon, céréales pour Ethan, double café pour elle. Elle va ensuite réveiller les enfants, Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron. Ils n'ont qu'à se débarbouiller et les enfiler pendant qu'Anna remplit les lunchbox. C'est une affaire qui roule, aussi vite que la berline de Sarah dans les rues de la ville, pour les déposer à l'école. Simon et Ethan en primaire, Anna au collège. Après les bises, les « tu n'as rien oublié », les « couvre-toi mieux », les « bon courage pour ton examen de maths », les « arrêtez de chahuter derrière », les « non, tu vas à la gym », et enfin le traditionnel « le week-end prochain, vous êtes chez votre père ». Sarah prend la direction du cabinet. À 8h20 précisément, elle gare sa voiture dans le parking devant le panneau portant son nom, Sarah Cohen, Johnson and Lockwood. Cette plaque qu'elle contemple tous les matins avec fierté désigne plus que l'emplacement de sa voiture. Elle est un titre, un grade, sa place dans le monde, un accomplissement, le travail d'une vie, sa réussite, son territoire. Dans le hall, le portier la salue, puis la standardiste, toujours selon le même rituel. Ici, tous l'apprécient. Sarah pénètre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton du 8e étage, traverse les couloirs d'un pas rapide en direction de son bureau. Il n'y a pas grand monde. Elle est souvent la première arrivée et la dernière partie. C'est à ce prix qu'on construit une carrière, à ce prix qu'on devient Sarah Cohen, associée du prestigieux cabinet Johnson & Lockwood, l'un des plus cotés de la ville. S'il y a une majorité de femmes parmi les collaboratrices, Sarah est la première à avoir été promue associée dans ce cabinet réputé pourtant machiste. La plupart de ses amies de l'école du barreau se sont heurtées au plafond de verre. Certaines d'entre elles ont même abandonné, changé de carrière, malgré des études longues et exigeantes qu'elles ont menées. Mais pas elle, pas Sarah Cohen. Le plafond, elle l'a pulvérisé, fait exploser à grands coups d'heures supplémentaires, de week-ends de passer au bureau, de nuit à préparer ses plaidoiries. Elle se souvient de la première fois où elle est entrée dans le grand hall en marbre, il y a 10 ans. Venue passer son entretien d'embauche, elle s'était retrouvée devant 8 hommes, dont Johnson en personne, l'associé fondateur, le managing partner, Dieu lui-même, sorti de son bureau pour l'occasion et descendu en salle de réunion. Il n'avait pas prononcé un mot, l'avait fixé d'un œil sévère, détaillant chaque ligne de son CV, sans faire le moindre commentaire. Sarah s'était sentie déstabilisée, mais n'en avait rien montré. Elle était experte dans l'art de porter un masque, une discipline qu'elle pratiquait depuis longtemps. En sortant, elle s'était sentie vaguement découragée. Johnson n'avait manifesté aucun intérêt à son égard, ne lui avait posé aucune question. Tel un joueur aguerri lors d'une partie de poker, il avait affiché durant l'entretien un visage impassible, se fendant d'un « au revoir » sévère qui laissait entrevoir peu d'espoir pour l'avenir. Sarah savait qu'ils étaient nombreux, les candidats au poste de collaborateur. Elle venait d'un autre cabinet, plus petit et moins prestigieux. Rien n'était gagné. D'autres auraient plus d'expérience, plus d'agressivité, plus de chance peut-être aussi. Par la suite, elle avait appris que Johnson l'avait choisi en personne, l'avait désigné parmi tous les candidats contre l'avis de Gary Gerst. Il allait falloir s'y habituer. Gary Gerst ne l'aimait pas. Ou alors il l'aimait trop, il était peut-être jaloux, ou bien la désirait, qu'importe, il se montrerait hostile en toutes circonstances, gratuitement, irrémédiablement. Sarah les connaissait, ces hommes ambitieux qui détestaient les femmes, se sentaient menacés par elles. Elle les côtoyait, mais n'en faisait que peu de cas. Elle traçait son chemin, les laissant sur le bas-côté. Chez Johnson & Lockwood, elle avait gravi des échelons à la vitesse d'un cheval lancé au galop, se forgeant une solide réputation en cour de justice. Le tribunal était son arène, son territoire, son colisée. Lorsqu'elle y pénétrait, elle devenait une guerrière, une combattante, intraitable, impitoyable. Pour plaider, elle prenait une voix légèrement différente de la sienne, plus grave, plus solennelle. Elle s'exprimait en phrases courtes, incisives, tranchantes, comme des uppercuts. Elle laissait ses adversaires KO, s'engouffrant dans la moindre faille, la moindre faiblesse de leur argumentaire. Elle connaissait par cœur ses dossiers, elle ne se laissait pas démonter et ne perdait jamais la face. Depuis qu'elle avait commencé à exercer dans ce petit cabinet de la rue Winston, qui l'avait embauchée après son diplôme du barreau, elle avait gagné la très grande majorité de ses affaires. Elle était admirée et redoutée. Elle était presque, à presque 40 ans, un modèle de réussite pour les avocats de sa génération.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé, Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenez.
Bon, jusqu'à présent, c'était juste une présentation des personnages. Et vous êtes vraisemblablement comme je l'étais moi-même à ce moment-là du roman. Je ne voyais absolument pas le rapport entre les trois femmes. La première est très pauvre, en Inde. La seconde, Julia, en Sicile, pays de tradition, est heureuse dans la fabrique de son père à fabriquer des perruques. Au fait, Dominique, tu fais la différence entre postiche et perruque?
Entre postiche et perruque. Une perruque, c'est peut-être plus complet?
Je ne sais pas. Tu répondras avant la fin de l'émission.
Je chercherai.
Wikipédia, au secours! La troisième, Sarah, est avocate et pressée au Canada. Alors, puisque nous avons encore un petit peu de temps devant nous, avant la fin de l'émission quand même, allons plus loin. Smita, village de Badlapur, Inde. En entrant dans la cahute, Smita remarque immédiatement l'expression de sa fille. Elle s'est hâtée de finir sa tournée, ne s'est pas arrêtée chez la voisine pour partager les restes des jats comme elle en a l'habitude. Elle a couru au puits prendre de l'eau, a déposé son panier de joncs et s'est lavée dans la cour. Un seau, pas plus. Il faut en laisser pour Lalita et Nagarayan. Tous les soirs, avant de passer le seuil de sa maison, Smita frotte 3 fois son corps avec du savon. Elle refuse de ramener l'odeur infâme chez elle. Elle ne veut pas que sa fille et son mari l'associent à cette puanteur. Cette odeur, l'odeur de merde des autres, ce n'est pas elle, elle ne veut pas être réduite à ça. Alors elle frotte de toutes ses forces, ses mains, ses pieds, son corps, son visage. Elle frotte à s'en arracher la peau. Derrière ce bout de tissu qui lui sert de paravent, dans le fond de cette cour, à l'orée du village de Badlapour, aux confins de l'Uttar Pradesh. Smita se sèche et met des vêtements propres avant d'entrer dans la cahute. Lalita est assise dans un coin, les genoux serrés contre la poitrine. Elle a le regard fixe, rivé au sol. Sur son visage flotte une expression que sa mère ne lui connaît pas, un mélange indéfinissable de colère et de tristesse. « Qu'est-ce que tu as ?» L'enfant ne répond pas, elle ne desserre pas les mâchoires. « Dis-moi, raconte, parle !» Lalita reste muette, le regard dans le vide, comme si elle fixait un point imaginaire qu'elle est la seule à voir. Un lieu inaccessible, loin de la cahute, loin du village, où personne ne peut l'atteindre, pas même sa mère. Smita s'énerve. « Parle !» L'enfant se recroqueville, rentre en elle-même comme un escargot effrayé dans sa coquille. Il serait facile de la secouer, de crier, la forcer à parler. Mais Smita connaît sa fille, elle ne tirera rien d'elle ainsi. Dans son ventre, le papillon s'est transformé en crabe. Un sentiment d'angoisse l'étreint. Que s'est-il donc passé à l'école? Elle ne connaît pas ce monde-là. Pourtant, elle y a envoyé sa fille, son trésor. A-t-elle eu tort? Que lui ont-ils fait? Elle observe l'enfant dans son dos, le sari semble déchiré. Un accroc, oui, c'est un accroc. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es sali? Où est-ce que tu as traîné? Smita attrape la main de sa fille et l'attire à elle pour la décoller du mur. Le sari neuf qu'elle a cousu des heures durant, nuit après nuit, renonçant à dormir pour qu'il soit prêt à temps, ce sari qui fait sa fierté est déchiré, abîmé, souillé. Tu l'as déchiré, regarde! Smita se met à crier, furieuse, avant de se figer. Un doute terrible s'est emparé d'elle. Elle entraîne Lalita dans la cour au grand jour. L'intérieur de la cahute est sombre et ne laisse guère entrer de lumière. Elle entreprend de la déshabiller, lui ôtant vigoureusement le sari. Lalita ne pose pas de résistance. L'étoffe cède facilement, le vêtement est un peu grand pour elle. Smita tressaille en découvrant le dos de l'enfant. Il est zébré de marques sombres, rouges, des traces de coups. La peau est fendue par endroits, à vif, rouge vermillon, comme son bindi. Qui t'a fait ça? Dis-moi, qui t'a frappé? La petite fille baisse les yeux et laisse échapper deux mots seulement. Le maître. Le visage de Smita s'empourpre, la jugulaire dans son cou se gonfle sous l'effet de la colère. Lalita a horreur de cette petite veine en saillie qui lui fait peur. Sa mère est si calme d'habitude. Smita attrape l'enfant et la secoue. Son petit corps nu vacille comme une brindille. Pourquoi? Qu'as-tu fait? Tu n'as pas obéi? Elle explose. Sa fille désobéissante le jour de la rentrée. C'est sûr, le maître ne voudra pas la reprendre. Tous ses espoirs envolés, ses efforts anéantis. Elle sait ce que cela veut dire, le retour aux latrines, à la fange, à la merde des autres, à ce panier maudit dont elle voudrait tant la préserver. Smita n'a jamais été violente, elle n'a jamais frappé personne, mais elle sent soudain monter en elle une bouffée de rage incontrôlée. C'est un sentiment nouveau qui l'envahit tout entière, une marée qui recouvre la digue de sa raison et la submerge. Elle gifle l'enfant. Lalita se recroqueville sous les coups. Elle protège son visage de ses mains du mieux qu'elle peut. Nagarayan est en train de rentrer des champs lorsqu'il entend les cris dans la cour. Il se précipite. Il s'interpose entre sa femme et sa fille. « Arrête, Smita !» Il parvient à la repousser et prend Lalita dans ses bras. Elle est secouée de sanglots. Il découvre les marques des coups dans son dos, les zébrures sur la peau fendue. Il serre l'enfant contre lui. « Elle a désobéi au Brahman !» hurle Smita. Nagarayan se tourne vers sa fille, toujours dans ses bras. « C'est vrai ?» Après un moment de silence, Lalita finit par lâcher cette phrase qui vient les gifler tous les deux. « Il voulait que je balaye la classe. » Smita s'est figée, Lalita a parlé tout bas. Elle n'est pas sûre d'avoir bien entendu. Elle l'a fait répéter. « Qu'est-ce que tu dis ?» Il voulait que je balaye devant les autres et j'ai dit non.
مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تأذي مشاعري أو تتسلى بسيرتي كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير
Yeah.
Giulia, Palerme, Sicile. Aujourd'hui, la mamma lui a confié une mission, celle d'aller chercher un papier dans le bureau de son père à l'atelier. L'hôpital lui réclame un document qu'elle ne parvient pas à trouver. Se lamente-t-elle. Giulia n'a pas le cœur de refuser. Elle n'a pourtant pas envie d'entrer dans cette pièce. Elle n'y a pas remis les pieds depuis l'accident de son père. Elle ne veut pas qu'on touche aux affaires de son père. Elle tient à ce qu'il retrouve l'endroit tel qu'il l'a laissé lorsqu'il sortira du coma. Ainsi, il saura que tout le monde l'attendait. Elle pousse la porte de la cabine de projection, transformée en bureau. Elle met un temps à y entrer. Au mur est encadrée la photo de Pietro, puis de celle de son père et de son grand-père, trois générations de Lanfredi qui se sont succédées à la tête de l'atelier. Un peu plus loin, d'autres clichés sont simplement punaisés. Francesca, bébé, Giulia sur la Vespa, Adela le jour de sa communion, la mamma en tenue de soirée, le sourire un peu figé, le pape aussi, pas François mais Jean-Paul II, le plus admiré. La pièce est telle que son père l'a laissée au matin de son accident. Giulia observe son fauteuil, ses classeurs, ce cendrier de terre glaise dans lequel il jette ses mégots et qu'elle avait façonné enfant pour lui en faire cadeau. Son univers semble vidé de sa substance, en même temps qu'étrangement habité. Sur le bureau, l'agenda est ouvert à une page terrible, celle du 14 juillet. Cette page, Giulia se sent incapable de la tourner. C'est comme si son père était là, soudain, tout entier, dans cet agenda de Moleskine à la couverture de cuir noir, comme s'il restait un peu de lui entre les lignes du carnet, dans l'encre de ses mots, jusqu'à cette petite tache en bas de la page, figée sur le papier. Giulia a l'impression qu'il est là, dans chaque particule d'air, dans chaque atome du mobilier. L'espace d'un instant, elle est tentée de rebrousser chemin, de refermer la porte. Pourtant, elle ne bouge pas. Elle a promis à la mamma de lui rapporter ce papier. Lentement, elle ouvre un premier tiroir, puis un deuxième. Le troisième, celui d'en bas, est fermé à clé. Giulia s'en étonne. Elle est envahie d'un pressentiment. Le papa n'a pas de secret. Chez les Lanfredi, on n'a rien à cacher. Alors pourquoi un tiroir fermé? Dans sa tête, les questions se mettent à tournoyer. Son imagination galope, comme un cheval fou qu'on aurait libéré. Son père aurait-il une maîtresse, une vie cachée? Est-ce là Piovra qu'une de ses tentacules serait venue le toucher? Chez les Lanfredi, on ne mange pas de ce pain-là. Alors pourquoi ce doute qui assaillit Giulia, comme une prémonition, un nuage noir qui obscurcit son horizon? Après de brèves recherches, elle finit par trouver la clé. Dans cette boîte à cigares offerte par la mamma, Giulia tressaille. A-t-elle seulement le droit d'être là? Il est encore temps de renoncer. D'une main tremblante, elle donne un tour de clé. Le tiroir s'ouvre enfin. Il renferme une liasse de papier. Giulia s'en saisit. Le sol, alors, se dérobe sous ses pieds. Giulia s'attendait à tout sauf à ça. Le contenu du tiroir est là, étalé devant elle, dans le bureau du papa. Des lettres d'huissier, des injonctions de payer, des courriers recommandés à n'en plus finir. La vérité la frappe comme une gifle. Elle tient en un mot, faillite. L'atelier croule sous les dettes. La maison Lanfredi est ruinée.
We'll be right back.
Sarah, Montréal, Canada. La bombe est lâchée. Elle vient d'exploser là, dans le cabinet de ce médecin un peu gauche qui ne sait pas comment annoncer la nouvelle. Il a pourtant de l'expérience, des années de pratique à son actif. Mais voilà, il ne s'y fait pas. Trop de compassion pour ses patientes, sans doute toutes ces femmes jeunes et moins jeunes qui voient leur vie basculer en quelques minutes à l'annonce d'un mot redouté. BRCA2. Sarah l'apprendra par la suite le nom du gène mutant, la malédiction des femmes askénazes. Comme si ce n'était pas assez, pensera-t-elle, il y a eu les pogroms, la Shoah. Pourquoi elle et les siens encore? Elle le lira écrit noir sur blanc. Dans un article médical, les femmes juives askénazes ont une chance sur 40 de développer un cancer du sein, contre une sur 500 dans la population globale. C'est un fait scientifiquement établi. Il y a des facteurs aggravants, un cas de cancer chez les ascendants directs, une grossesse gémellaire. Tous les signaux étaient là, pensera Sarah, visibles, évidents. Elle ne les a pas vus ou n'a pas voulu les voir. En face d'elle, le médecin a des sourcils noirs et broussailleux. Sarah ne peut en détacher les yeux. C'est étrange, cet homme qu'elle ne connaît pas est en train de lui parler de la tumeur de ses radios. La taille d'une mandarine, précise-t-il. Pourtant, elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit. Elle a l'impression de ne distinguer que cela, ses sourcils bruns et hirsutes, semblables à un territoire peuplé de bêtes sauvages. Il y a aussi des poils qui sortent de ses oreilles. Des mois plus tard, lorsque Sarah repensera à ce jour, c'est ce souvenir qui lui reviendra en premier, les sourcils du médecin qui lui a annoncé qu'elle avait un cancer. Bien sûr, il ne dit pas le mot. C'est un mot que personne ne prononce, un mot qu'il faut deviner, derrière les périphrases, le jargon médical dans lequel on la noie. On dirait qu'il est une insulte, qu'il est un tabou, maudit. C'est pourtant de cela qu'il s'agit. La taille d'une mandarine, a-t-il dit. C'est là, c'est bien là. Sarah a pourtant tout fait pour reculer cette échéance, ne pas s'avouer la douleur lancinante, la fatigue extrême. Elle en a chassé l'idée à chaque fois qu'elle se présentait, à chaque fois qu'elle aurait dû la formuler. Mais aujourd'hui, il faut faire face. C'est là, ça existe. Une mandarine, c'est énorme et dérisoire à la fois, pense Sarah. Elle ne peut s'empêcher de se dire que la maladie l'a prise en traître au moment où elle s'y attendait le moins. La tumeur est maligne, sournoise. Elle a œuvré silencieusement dans l'ombre à préparer son coup. Sarah écoute le médecin. Elle observe ses lèvres bouger, mais ses mots ne semblent pas la toucher. Comme si elle les percevait à travers une épaisseur ouatée. Comme si, au fond, ils ne la concernaient pas. Pour un proche, elle serait inquiète, affolée, effondrée. Étrangement pour elle-même, il n'en est rien. Elle écoute le médecin sans y croire, comme s'il lui parlait d'un autre, de quelqu'un qui lui serait tout à fait étranger. À la fin de l'entretien, il lui demande si elle a des questions. Sarah secoue la tête et sourit, de ce sourire qu'elle connaît bien et affiche en toutes circonstances, ce sourire qui veut dire « Ne vous en faites pas, ça ira ». C'est un leurre, bien sûr, un masque derrière lequel elle entasse ses chagrins, ses doutes, ses angoisses. Un beau bazar là-dedans, à dire vrai. De l'extérieur, rien ne paraît. Le sourire de Sarah est lisse, gracieux, parfait. Au médecin, elle ne demande pas ses chances. Elle refuse de réduire son avenir à une statistique. Certains veulent savoir, elle pas. Elle ne laissera pas les chiffres s'immiscer en elle, dans sa conscience, dans son imagination. Il serait capable de proliférer comme la tumeur elle-même, de saper son moral, sa confiance, sa guérison. Dans le taxi qui la ramène au cabinet, elle dresse un état des lieux de la situation. Elle est une guerrière, elle va se battre. Sarah Cohen va traiter cette affaire comme elle a traité toutes les autres. Elle qui ne perd jamais un dossier ne va pas se laisser impressionner par une mandarine, aussi maligne soit-elle. Dans l'affaire Sarah Cohen, puisque tel sera désormais son nom de code, il y aura des attaques, des contre-attaques, des coups bas aussi sans doute. La partie adverse ne s'avouera pas vaincue si facilement. Sarah le sait. La mandarine est vicieuse, sûrement l'adversaire la plus retorse qu'elle ait eu à affronter. Il s'agit d'une procédure au long cours. Ce sera une guerre des nerfs, une succession de moments d'espoir, de doutes et d'autres où peut-être elle se croira vaincue. Il faudra tenir coûte que coûte. Ce genre de combat se gagne à l'endurance. Sarah le sait. Comme elle étudierait un dossier, elle brosse à grands traits sa stratégie d'attaque de la maladie. Elle ne va rien dire, à personne. Au cabinet, nul ne doit savoir. La formule ferait l'effet d'une bombe dans l'équipe, et pire encore, chez les clients. Cela risquerait de les inquiéter inutilement. Sarah est l'une des fondations du cabinet, l'un de ses piliers. Elle doit rester solide pour ne pas faire pencher l'édifice tout entier. Et puis, elle ne veut pas de la pitié des autres, de leur compassion. Certes, elle est malade, mais ce n'est pas une raison pour que sa vie change. Il faudra être très organisé pour ne pas éveiller les soupçons, inventer des codes secrets dans son agenda pour ses séances à l'hôpital, trouver des raisons pour justifier ses absences. Il faudra se montrer inventive, méthodique, rusée, telle l'héroïne des romans d'espionnage. Sarah va mener une guerre souterraine. Un peu comme on cache une liaison extra-conjugale, elle va organiser l'anonymat de sa maladie. Elle sait faire ça, compartimenter sa vie. Elle a des années de pratique. Elle va continuer la construction de son mur encore plus haut, toujours plus haut. Après tout, elle a réussi à dissimuler ses grossesses. Elle parviendra bien à cacher son cancer. Il sera son cancer secret, son fils illégitime dont nul ne pourra soupçonner l'existence, inavouable et invisible. Lorsqu'elle revient au cabinet, Sarah reprend le cours de ses activités. Imperceptiblement, elle guette la réaction de ses collègues. Leur regard, l'inflexion de leur voix. Elle constate avec soulagement que personne n'a rien remarqué. Non, elle n'a pas le mot « cancer » gravé sur le front. Personne ne voit qu'elle est malade. À l'intérieur, elle est en miettes. Mais cela, personne ne le sait. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Ces trois femmes que rien ne prédispose à se rencontrer, voient donc leur vie remise en cause. Smita, car sa fille se fait battre par le maître. Je parle à Dominique en même temps pour lui expliquer la situation. Smita, donc, car sa fille se fait battre par le maître d'école. Julia, dont l'entreprise paternelle est ruinée. Et Sarah, atteinte d'un cancer. Certes, mais alors, elle est où, cette fameuse tresse?
J'ai une petite idée.
Vas-y, Dominique, je t'écoute.
J'ai une petite idée, mais je ne sais pas si je...
Ben vas-y, tente. Si je peux.
L'histoire de cancer, de postiche et de... une petite indienne. Il y aurait un lien avec la maladie, peut-être. Avec un échange d'organes, avec un postiche pour la femme qui a le cancer.
Alors, je vais te dire, c'est pas mal, mais c'est loin d'être assez précis. Quand
c'est même. Loin d'être assez précis.
Donc,
bon,
à toi, Dominique.
Eh ben écoute, merci Hervé pour cette lecture. Ça nous a mis à la bouche et nous voilà tous devant une énigme. Ben la seule façon de la résoudre, la façon de la résoudre est simple, hein, il s'agit de lire le livre. Ça s'appelle La Tresse, c'est de Laetitia Colombani et c'est sorti aux éditions Grasset en 2017. C'est un livre assez récent finalement.
Oui, oui.
Voilà.
En général, je crois que je choisis des livres assez récents, il me semble.
Oui, oui, effectivement, il n'y a pas eu de... Nous, on n'a pas lu de Victor Hugo ou de Montaigne ou de... une chose comme ça.
Ça arrivera peut-être un
Ça arrivera coup. Peut-être. Ah ben, voilà.
Sait-on jamais avec les vieux, hein.
Bien, eh bien, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Ouais. Hervé, bien entendu, tu as déjà choisi le, le livre que tu nous liras la prochaine fois ?
Évidemment pas. Mais je tiens à préciser que la prochaine fois, ça sera Catherine Bonny qui lira. Et je crois qu'elle adore les nouvelles.
Ah, donc ça pourrait être une nouvelle. On verra. Allez, au revoir à tous, au mois prochain, et bonne lecture.
Bonne lecture, au revoir.